Radio Kapi. Oh, Kapi.
Voici les titres de cette édition. Mission à Bunia du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires. Objectif de cette première visite, s'imprégner de la situation humanitaire en vue de recueillir les données devant servir des plaidoyers auprès des bailleurs. La redevance minière rétrocédée aux entités territoriales décentralisées du Sud Kivu est consommée sans contrepartie au projet de développement communautaire. Révélation de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE hier à Bukavu. José Blandine Ongoto est notre invitée. Elle est chef de projet à l'Organisation internationale du travail. L'OIT a organisé récemment à Lubumbashi un atelier de renforcement des capacités pour combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement des minerais en RDC. Bonjour à tous. Parlons d'abord de l'ouverture ce matin à Goma, dans la province du Nord Kivu, de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. C'est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et représentant du personnel du chef de l'État qui a lancé les travaux en présence de Kassim Diagne, représentant spécial adjoint et des nombreux invités venus de l'intérieur ainsi que de l'extérieur du pays. Mathieu Ilunga était présent dans la grande salle de l'hôtel Serena de Goma. On reviendra sur cet élément, mais tout d'abord, sachez que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires, Bruno Le Marquis, séjourne depuis vendredi à Bunia. Il a échangé hier avec le gouverneur, les chefs de coutumiers et les agences du système des Nations Unies à Bunia sur la crise humanitaire dans cette province qui compte environ 2 millions de déplacés. Selon ses propos à la presse, l'objectif de cette première visite est de s'imprégner de la situation humanitaire en vue de recueillir les données qui serviront de plaidoyer auprès des bailleurs. Il est au micro d'Isaac Raymond.
Pour moi, c'est vraiment une première visite en Ituri pour me familiariser avec la situation, comprendre toute la dimension et la profondeur de la crise humanitaire, puisqu'il y a énormément de personnes affectées. Il y a un tiers des personnes déplacées en RDC, d'après les chiffres qui sont dans la province de l'Ituri. Comprendre et discuter les problèmes d'accès humanitaire, les problèmes de violation, par exemple les attaques qui ont eu lieu sur des structures sanitaires, des structures d'éducation, des écoles. Ensuite, pour moi, ça sera important de retour à Kinshasa en termes de plaidoyer auprès des différents partenaires, que ce soit les partenaires gouvernementaux ou les partenaires internationaux. On a lancé il y a un mois et demi, le plan de réponse humanitaire pour l'année 2022, qui est très important. Énormément de personnes affectées sont couvertes par ce plan. Une demande financière qui avoisine les 1,9 milliards de dollars. Donc c'est important d'avoir vu la situation, d'avoir discuté avec les partenaires ici pour pouvoir faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds humanitaires.
Signalant que Bruno Le Marquis s'est rendu ce samedi en territoire de Djougou pour évaluer la situation humanitaire dans les différents sites des déplacés. Retrouvons à présent Mathieu Ilunga à partir de la salle de l'hôtel Serena de Goma. Il nous parle de l'ouverture ce matin à Goma, dans le Nord Kivu, de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga.
Trois temps forts ont marqué l'événement, à commencer d'abord par le mot de bienvenue du gouverneur militaire de la province. Dans son mot, le gouverneur militaire a évoqué la dangerosité des volcans Nyiragongo et Nyamulagira qui sont les plus actifs au monde et menacent la région. Le second temps fort est l'allocution prononcée par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangu, a rappelé les enjeux de cette rencontre qui consiste à faire le point des connaissances sur le fonctionnement des volcans de Virunga, mais aussi de tirer les leçons des trois dernières éruptions du Nyiragongo, notamment les impacts socio-économiques et environnementaux. Il revenait enfin au ministre d'État Guy Luango de procéder à l'ouverture solennelle des travaux avant d'exhorter les conférenciers de dresser un état de lieu de la gestion des éruptions volcaniques dans la région et des mesures de prévention et approche de communication y afférentes. Mathieu Ilunga, Chambo Monatiebe, Radio Okapi.
Au sud Kivu, l'archevêque de Bukavu appelle toute la population à l'unité, l'amour du prochain et la cohésion sociale pour l'intérêt de tous. Il a dit jeudi, à l'issue de l'entretien avec le gouverneur de province, à l'archevêché de Bukavu. Cette rencontre rentre dans le cadre de la réconciliation des populations sur la situation que traverse la province. Emmanuel Elamejo Kabedi.
L'entretien entre l'archevêque de Bukavu et le gouverneur de province a eu lieu au perron de l'archevêché. S'exprimant à la presse, Monseigneur François-Xavier Maroy déclare, je cite, « C'est seulement dans la cohésion, l'unité et l'amour du prochain que nous pourrons bâtir une nation et une province où règne la paix, la sécurité et le développement. »
Je suis donc de cet avis qu'on mette les enfants de la province ensemble pour que, consolidant nos forces, nous puissions aller de l'avant. Nous sommes tous désolés de regarder notre province reculer à cause de nos petits conflits qu'on peut arranger quand on est en famille. Nous aimerions que tous ensemble, nous ayons un même regard dans la même direction pour construire le pays.
Le gouverneur Teongwa Bidjakassi dit avoir consulté le prélat catholique qui a toujours privilégié la paix et le dialogue pour aplanir d'éventuelles divergences de vues.
Il était donc question pour moi de venir avoir ses conseils pour faire avancer cette province dans l'unité et dans la paix. Le travail de dialogue, de paix, de cohésion, c'est un travail permanent. Ce qui est plus important aujourd'hui, le fille et le fils du site Kivu, nous devons regarder dans la même direction vers le vrai combat, c'est celui de la paix et du développement de notre province.
Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de la hausse du prix de carburant à Mbujimayi. Le litre d'essence coûte actuellement 5500 francs congolais contre 4500 il y a une semaine. Cette hausse a aussi impacté le prix de la course en ville. Les importateurs des produits pétroliers justifient cette hausse par le manque de trains pour charger leurs marchandises. Du côté de la SNCC, on affirme que plusieurs expéditions de carburant en provenance, notamment d'Ilebo, sont arrivées hier vendredi à Mweneditu. La SNCC rappelle une fois de plus qu'elle ne peut transporter que les produits qui lui sont confiés par la clientèle. Des explications avec Esther Ndalafina.
5500 francs congolais, c'est le nouveau prix du litre d'essence en Mbujimayi. Ce prix est ainsi affiché à la pompe et chez les revendeurs appelés communément Kadhafi. Suite à cette hausse, le prix des transports en commun a doublé sur tous les trajets. À titre illustratif, le transport du centre-ville vers le grand marché Bakwadianga, soit une distance de moins d'un kilomètre, payé autrefois à 1000 francs, se négocie actuellement à 1500 francs congolais la journée et 2000 francs congolais le soir. Serge Mukendi, motocycliste, dit ne pas faire de bonnes affaires.
Nous avons du mal à travailler, du mal même à transporter des clients, du mal même à payer les frais scolaires de nos enfants, même à manger. Nous demandons aux autorités de payer quand même son geste. À cela que nous puissions quand même bien respirer.
Contacté, le président des importateurs de produits pétroliers justifie cette hausse par le manque de wagons de la SNCC pour charger leurs marchandises.
Il n'y a pas le chargement au départ de nos machines. Ça fait maintenant un mois qu'on n'a pas chargé même aucun wagon. La SNCC n'a pas de locomotive, il n'y a pas de vacances. C'est devenu compliqué même de plus qu'auparavant.
Du côté de la SNCC, on affirme que plusieurs expéditions de carburant en provenance notamment d'Ilebo sont arrivées à Mweneditu ce vendredi. La SNCC rappelle qu'elle ne peut transporter que le produit qui lui sont confiés par la clientèle. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour au sud Kivu, où les recettes de la redevance minière qui sont rétrocédées aux entités territoriales décentralisées de la province sont consommées sans contrepartie au projet de développement communautaire. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE l'a révélé hier à Bukavu au cours d'une table ronde sur cette question. L'ITIE recommande aux parties prenantes dans les secteurs miniers de se souder les coudes pour changer la donne. Jean Kassami pour les détails.
Le code minier, révisé en mars 2018, autorise au gouvernement central à rétrocéder 15% de la redevance minière aux ETD. Aujourd'hui, l'ITIE constate que les fonds rétrocédés aux entités territoriales décentralisées sont subtilisés par les responsables des ETD, Jean-Claude Katende, membre du comité exécutif de l'ITIE RDC.
Quand nous comparons la situation avant 2018 et après 2018, il est clair qu'aujourd'hui, particulièrement les entités territoriales décentralisées reçoivent énormément d'argent de la part de la quotité qui leur est de 15% de la rédevance minière. Mais sur terrain, on constate que les responsables des ETD privilégient d'abord leur propre confort, alors que la rédevance minière est destinée au développement socio-économique des communautés.
Le ministre du Plan et Budget au site Kivu reconnaît que les responsables des ETD ne gèrent pas correctement la redevance mise à leur disposition. Alain Chaman vous indexe aussi le gouvernement central qui, selon lui, ne rétrocède pas la redevance minière au moment attendu. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, ce thème est au centre des échanges entre les femmes venues du Rwanda, du Burundi et de la RDC. C'est dans le cadre de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. À la fin, il sera question de la mise en place au sein de cette plateforme régionale d'un réseau genre climat pour renforcer la coopération régionale et faire participer les femmes des Grands Lacs dans le processus des négociations sur le climat. Jean Gandou nous en parle.
Parmi ces femmes, on compte les maires de villes dans la région de Grand Lac, les femmes opératrices économiques de la région, les femmes leaders membres de la société civile, celles des partis politiques, des médias et autres. Pour les organisateurs, les problèmes liés au changement climatique et à la durabilité ont des répercussions durables sur notre environnement et sur le développement économique et social. Ceux qui sont les plus vulnérables en subissent les retombées. Et les femmes sont reconnues comme étant les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et à travers le monde, les femmes constituent la majorité des personnes pauvres et sont de plus en plus dépendantes des ressources naturelles qui, malheureusement, sont aussi menacées par les changements climatiques. C'est dans ce contexte que le maire adjoint de Lubumbashi a demandé que chacun prenne à bras le corps le combat contre le réchauffement climatique. Lauriane Mwewa.
Ceci est pour nous la raison valable pour nous exhorter à chacune et à chacun à prendre à bras le corps le combat contre le réchauffement climatique. Pour y arriver, le monde a besoin d'une sorte de l'union sacrée autour du genre, où les hommes, les femmes sont logés à la même enseigne, sans discrimination aucune.
Notons que ces assises bénéficient du soutien financier de l'Association internationale des maires francophones. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
En bref, les députés provinciaux de la RDC sont réunis ce samedi au Palais du Peuple pour un séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires du Congo profond. Ce séminaire est organisé sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce programme, d'après son initiateur, le chef de l'État, a pour mission d'améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. Son coût estimé à 1,66 milliard de dollars sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'apport de partenaires au développement sera également sollicité pour l'accélération de sa mise en œuvre au bénéfice de la population. Ce séminaire, qui s'ouvre aujourd'hui, ira jusqu'au 29 mars prochain. La dynamique pour une sortie de crise, dit SOC, un mouvement politique membre de la plateforme Lamuka, s'oppose à la visite du pape François en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, président de cette structure, l'a fait savoir hier vendredi ici à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Il justifie sa position entre autres par l'insécurité à l'est du pays en dépit de l'état de siège, mais aussi par ce qu'il appelle diffamation à l'endroit des princes de l'Église catholique. Et protestante. Jean-Pierre Lisanga Bonganga est au micro de Paul Matendo.
La maison République démocratique du Congo est très sale. Elle ne peut, dans ces conditions, accueillir dignement les Saint-Pères. Cette saleté est composée de ce qui suit, insécurité, dans les pays, surtout à l'Est, malgré l'état de siège mal conçu, mal planifié et mal géré. Injures, diffamations, intimidations et menaces à l'endroit des princes des églises catholiques et protestantes et des acteurs politiques de l'opposition. Absence d'une CENI crédible et inclusive, consensuelle et acceptée par tous. Absence de leadership et de coordination de l'action gouvernementale.
Actualité internationale.
Au moins 22 personnes ont été tuées et 38 autres blessées dans une collision vendredi entre un car de voyageurs et un camion dans l'est de la Tanzanie, a annoncé la présidence tanzanienne. La chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, a présenté ses condoléances aux personnes endeuillées par l'accident dans un communiqué publié par la présidence vendredi soir. Attristée par la mort de ces 22 personnes, Madame Hassan a également exhorté les usagers de la route à respecter les règles de circulation dans un message sur Twitter. Quatre personnes à bord d'un avion militaire américain qui s'est écrasé en Norvège où il participait à un exercice de l'OTAN sont mortes, annoncent ce samedi les forces armées norvégiennes. La police de Nordland confirme ce samedi que les quatre personnes qui s'est trouvées à bord de l'avion sont décédées. À la connaissance de la police, les quatre sont des nationalités américaines. Il n'y avait pas plus de quatre personnes à bord, écrit la défense norvégienne dans un communiqué.
L'invité.
José Blandine Ongoto est notre invitée. Elle est chef de projet à l'Organisation internationale du travail. Elle est chargée de renforcement de capacités dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Du 17 au 18 mars dernier, l'OIT a organisé à Lubumbashi un atelier de renforcement de capacités pour combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement des minerais en RDC. Pour elle, la place des enfants n'est pas dans les mines et carrières et tout le monde doit s'impliquer pour cette fin. José Blandine Ongoto s'entretient avec Jean Gandou.
José Blandine Ongoto, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut entendre par travail des enfants dans les mines?
Quand nous parlons du travail des enfants dans les mines, nous voyons la présence des enfants et le travail des enfants. Vous avez des enfants de moins de 5 ans qui sont là en train de trier les pierres. Vous avez des enfants qui sont là en train de transporter, ça peut être de l'eau, mais ils ne doivent pas le faire parce que c'est pas la place qui leur convient. Ils sont exposés à beaucoup de dangers par rapport à leur âge, par rapport à leur santé. Tout travail que l'enfant fait dans les mines n'est pas accepté. Que ce soit dans le puits, que ce soit sur la surface, ce n'est pas toléré. C'est considéré comme pire forme de travail des enfants, compte tenu des impacts sur la croissance de l'enfant et son développement mental et physique.
Comment les faire partir de ces milieux?
Faire partir les enfants du milieu nous ramène donc à la lutte contre le travail des enfants dans les mines, qui est une thématique que le gouvernement de la RDC prend vraiment à cœur. Il y a beaucoup des efforts qui ont été menés jusque-là, à commencer par la mise en place d'un cadre légal et politique fort. Vous avez aussi l'appui que plusieurs partenaires apportent à la RDC pour éradiquer ce fléau. Cependant, le manque de coordination qui existe entre les différentes interventions cause un problème. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important, à travers un plaidoyer fort, amener tous les partenaires à travailler ensemble selon la vision et le programme de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le travail des enfants en général.
Les enlever des sites miniers ou des mines pour les amener où en fait?
Ça c'est une très bonne question. Nous sommes ici pour un atelier. Nous allons faire une consultation auprès de nos partenaires sur un outil de politique que nous appelons mécanisme ou système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. C'est un outil de politique que le gouvernement de la RDC a présenté comme promesse d'action pour l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. C'est un outil qui montre le mécanisme du retrait des enfants, comment on les identifie, on enregistre dans une base de données. Les informations enregistrées informent le système ou le mécanisme de référencement. Les enfants sont encadrés selon les besoins, selon les âges, pour leur réinsertion sociale. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les enfants qui étaient retirés, qui étaient formés, repartaient parce qu'il n'y avait pas de suivi, ils étaient abandonnés à eux-mêmes après. Donc le système, qui est un outil de politique congolaise, permettra de faire un suivi régulier pour s'assurer que les enfants sortis des mines, qui sont orientés soit vers des formations ou vers l'école ou encore dont les parents sont renforcés pour améliorer les revenus de leur ménage, sont suivis pour s'assurer que ces enfants ne repartent plus. Donc c'est le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place à la demande du gouvernement de la RDC.
Et là nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Est-ce que dans cette province il y a des enfants dans les mines? Si oui, quelles mines et il serait au nombre de combien?
Le projet que nous menons couvre bien sûr les province du Haut-Katanga et du Lualaba. Le travail des enfants est présent dans les mines artisanales dans la région. Le gouvernement reconnaît la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales dans cette région. Quant au nombre, c'est une question très très difficile à répondre, je dirais, compte tenu du manque de coordination. Et je crois qu'avec ce système qui est le mécanisme de suivi et de remédiation, nous avons une base de données qui sera nourrie par l'identification des outils standards que nous sommes appelés, nous partenaires, à utiliser tous pour permettre au gouvernement de la RDC d'avoir une idée claire de combien d'enfants il y a dans les mines. Sinon, nous sommes en train de combattre un invisible, parce que ça peut être plus, ça peut être moins. Il est vraiment important que nous sachions combien d'enfants il y a pour que nous puissions apporter des solutions adaptées.
Mais pourquoi on n'est pas aussi associé les parents de ces enfants, s'ils sont connus, afin que cette lutte soit commune?
Quand nous parlons de l'identification, ça passe par non seulement les parents, les communautés concernées, les leaders communautaires. C'est l'approche de ce que nous appelons en anglais CLMS, le Child Labor Monitoring System. C'est surtout les communautés concernées qui sont impliquées, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. C'est sous la direction du gouvernement avec l'appui des partenaires. Pourquoi les enfants sont dans les mines? La réponse, c'est la pauvreté. Alors, si vous sortez les enfants, ceux qui sont jeunes, ils vont à l'école et ils reviennent à la maison après les cours, les parents sont là, ils les regardent. Est-ce qu'on va résoudre le problème? Non, les enfants vont repartir. C'est pour dire qu'au niveau du référencement, on ne prend pas soin que des enfants. Sinon, on ne va pas régler le problème, parce que la cause principale du travail des enfants, c'est d'abord la pauvreté des parents. Donc, au niveau du référencement, nous travaillerons aussi avec les parents pour les aider à améliorer leurs conditions sociales, pour leur permettre de mieux prendre soin de leurs enfants. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons espérer que les enfants ne repartiront plus dans les mines.
José Blandine Ongoto, je vous remercie.
Je vous remercie.
José Blandine Ongoto, chef de projet à l'Organisation internationale de travail, chargé de renforcement des capacités dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines. C'est par ici que prend fin ce journal, coordonné par Noëlla Luzito et Pierrot Lameji, mis en onde par Willem Lungamba. Merci de l'avoir suivi.